Ce matin. Donc, je suis là depuis très tôt et j'ai écrit ce texte pour rassembler Bezrat Hashem toutes les notions de Pessah selon la Kabbalah. Enfin, toutes les notions. C'est un bien grand mot, mais ce que j'ai pu, Bezrat Hashem, par rapport à la notion de Pessah pour qu'on comprenne un tout petit peu plus l'intériorité de la fête. Et d'abord, avant de commencer, sachez que le mot Moed en hébreu ou Chag ne s'adresse que à Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah ne dure qu'un seul jour. On ne dit jamais les 7 jours de Pessah. Pessah ne dure qu'un seul jour. En fait, une seule nuit. Le reste, ça s'appelle Chag HaMatzot. Ce n'est pas du tout Chag HaPessah. Donc, Pessah, c'est que l'instant de la sortie d'Égypte. Et le mot chag en hébreu veut dire compas. Lachoug, mechoga, comme les mechogim de la montre. C'est-à-dire que c'est un système circulaire, donc lié au temps, lié à la nature. Étant donné que la nature est dans le système circulaire, elle est en fait dirigée par l'infini qui donne à ce monde un mouvement perpétuel. Et étant donné que le temps a un sens, alors, cette circulation devient une spirale, donc une vis. C'est-à-dire que nous sommes censés donner un sens au temps, sinon le temps reste circulaire, mais comme un disque plat, où on n'avance nulle part. On tourne en rond. Et donc, le sens, c'est en fait la vis, c'est Israël qui le donne, c'est le Yosher qui se trouve à l'intérieur de ce cercle, donc c'est le divin. Da ki arishonim machmat avonotez. Sache que les premiers, ceux qui étaient venus dans le monde au début, Silku et Ashrina mina olam azeh ad nareki hashvi, ont éloigné la présence divine de notre monde jusqu'au 7e degré de ciel. Vous savez qu'il y a 7 cieux en Agmara de Brachot, on mentionne les 7, et c'est énorme, c'est-à-dire que la distance entre un ciel et un autre, c'est 500 millions d'années-lumière. Il y a tout un. C'est-à-dire, juste pour nous montrer qu'il y a une différence énorme qui correspond aux 5 degrés de la Neshama. Sachez aussi que quand vous recevez une couche supplémentaire de Neshama, c'est que vous êtes monté d'un degré qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que, d'après le Harizal, c'est la distance entre un chien et un humain. C'est-à-dire que si tu as un nefesh seulement et que tu as atteint toutes les parties du nefesh, c'est-à-dire nefesh de nefesh, ruach de nefesh, neshama de nefesh, haya de nefesh et yechida de nefesh, et que tu passes à ruach, tu as fait un pas comme si tu étais un chien et tu es devenu un être humain. La même chose pour au-dessus et pour au-dessus et pour au-dessus. En tout, il y a 25 étapes qu'on peut en réalité atteindre. Le Mashiach aura la yechida, c'est cette unité qui, en fait, nous rapproche le plus de l'infini, béni soit-il, tout en restant un homme, il est représentant des valeurs de l'infini. Et donc, à cause des fautes, la Shekhina, la présence divine, s'est éloignée de notre existence de 7 cieux. Imaginez-vous la catastrophe. Chaque fois que la Shekhina monte, il y a une distance qui se crée, donc il y a un vide qui se crée. Et il y a des troubles, il y a des soucis, il y a des doutes, parce que tu ne vois plus clair. Et donc, plus ça monte, moins tu vois clair. Adam Arishon, maintenant je vais énumérer comment ça s'est passé. Le premier homme, il a enlevé la Shrina de ce monde à cause de sa faute, jusqu'au premier ciel. Caïn, la Rakia Hasheni, Caïn l'a repoussé au deuxième ciel à cause du meurtre. Enoch l'a repoussé au troisième ciel. Dor HaMabul, la période du déluge, l'a repoussé jusqu'au quatrième ciel. Dor HaPalaga, la génération de la dispute de la tour de Babel, l'a remonté en fait encore plus haut au cinquième ciel. Sodome et Gomorre, la Rakia Shishi, sixième ciel, comme vous comprenez, parce que vous avez appris que le 6, c'est le Yesod, et comme la faute principale là-bas, c'était le Yesod, donc ils l'ont monté au sixième, éloigné. Ou bien, et la faute des Égyptiens, mais pas celle que vous connaissez de l'histoire de Pessah, celle où il y avait Abraham seul avec Sarah, parce que Abraham et Sarah, ils ont codifié en fait toute la sortie d'Égypte à eux deux. C'est-à-dire qu'Abraham a fait avant le temps l'entrée en Égypte et la sortie d'Égypte. Donc il est rentré en Égypte avec Sarah, Sarah a été kidnappée, donc c'est l'image du peuple juif. Abraham va représenter en fait Moshe, le Mashiach de l'époque. Quand ils vont ressortir d'Égypte, c'est une préparation du terrain. En fait, il a déjà codé toute la future sortie d'Égypte. Il a facilité en fait l'avenir avec sa femme seulement. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de passer par des événements réels pour faire les choses. On peut les faire avec une pensée agissante. Et il y a des pensées, la pensée est agissante. La pensée de Dieu est agissante. Nous, si on ne fait pas un acte, il y a une distance avec notre pensée. Chez lui, la pensée est déjà une action. Parce qu'il est dans l'unité totale. Et plus nous sommes dans cette unité, plus notre pensée agit. Donc le Mashiach aura une pensée agissante directement. C'est-à-dire sa pensée aura des conséquences sur le terrain. Donc, à l'époque des Égyptiens et la période d'Abraham Avinu, lorsqu'il est rentré avec Sarah, c'est là où la Shekhinah fut éloignée de ce monde jusqu'au septième ciel. Alors, bien entendu, tout ce système demande une redescente, d'accord, de la Shekhinah, de la présence divine. Alors, Abraham a corrigé la première, donc du septième au sixième, Yitzhak du sixième au cinquième, Yaakov du cinquième au quatrième, jusqu'à Moshe. Le jour du don de la Torah de l'infini, a touché le sol de ce monde, donc on est arrivé en fait à un retour au monde. Au moment où il y a un retour au monde de cette Torah initiale, il n'y a plus de mort. La mort est annulée. Donc au moment du don de la Torah, la mort a été annulée. Le problème, c'est qu'on a fait la faute du veau d'or, on a encore recommencé le même système, on a éloigné, donc la mort est revenue en place. Tout ça pour vous expliquer que quoi? Vehine, Dor Galut Mitzrayim. Maintenant, nous sommes dans la période où nous étions en Égypte. La sortie d'Égypte, celle qu'on va fêter pendant la nuit de Pessah. Cette génération, ou Be'etzem Sodnitzot Sothakeri, qui sont ces êtres qui vivaient en Égypte? Ce sont en réalité toutes les gouttes de semences que le premier homme, Adam, a sorti de lui. Sans sa femme. Vous savez quoi? Abraham Avinu a quitté Ève pendant 130 ans. Adam a quitté Chava pendant 130 ans. Et pendant ces 130 ans, il a sorti de la semence sans femme.
Il était bien que la femme nous serve?
Non. D'accord? Le serpent, c'était ponctuel. Là, il est en train de faire tchouva. Hein? Il était avec elle au début. D'accord? Ce qu'on appelle donc Chava Rishona. Il y a Chava Rishona, Chava Shnia, je ne vais pas rentrer maintenant pour ne pas vous embrouiller. Il y a plusieurs Ève. La première Ève n'écoutait pas Adam, donc il l'a embrouillée. Et on l'appelle celle qui pleure parce qu'elle est tout le temps en train de pleurer. Dans les films de science-fiction, c'est celle qui est Meyalelet. Tu l'entends comme ça crier. Donc, elle est, on sait exactement comment elle est. Tout est donc, on l'appelle Hammeyalenet, donc on l'appelle celle de la nuit. Lamed Yud Tav. On n'a pas le droit de dire ce nom. D'accord? Certaines personnes appellent leur fille comme ça, Chas V'Shalom, Li, et un Taf à la fin. Faire très attention, c'est un nom d'une clipa énorme. Et donc, pendant qu'il a gaspillé cette semence, pendant 5-30 ans, toutes ces semences ne sont pas gaspillées. Elles sont gaspillées parce qu'il n'y a pas de femme, mais en réalité, ce sont des éléments de vie, porteurs de vie. Et donc, ces éléments-là sont perdus quelque part, attendent un corps, un nouveau corps, pour rentrer dedans. Tous ceux qui étaient en Égypte, les enfants d'Israël, étaient les supports, les corps de ces âmes-là, de ces pertes-là. Moralité, comme Adam a quitté Ève pendant 130 ans, il fallait 130 ans d'exil. Donc, en fait, on est resté en Égypte 130 ans, réellement l'exil. Avant, c'était la période de Yosef, on n'était pas encore en exil. D'accord? C'est quand le roi Pharaon est mort qu'a commencé l'exil et ça a duré 130 ans exactement, année pour corriger tout ça.
C'est pour ça qu'il y a une esclavage.
Exactement. L'esclavage en Égypte vient pour réparer, en fait. Ils ont chaud, hein? Ils ont froid, ils ont chaud. Ben voilà, tout le monde est en train de faire des mouvements guerriers.
Est-ce que tu peux faire la différence entre l'exil, l'exil et l'esclavage? Pour faire la
Okay.
différence.
Alors, l'exil, c'est une chose, c'est-à-dire ce sont des néchamotes qui ne sont pas à leur place, donc elles sont exilées, elles sont sorties parce qu'elles n'avaient pas de corps féminin. Ce qui veut dire que la semence, race de Shalom, d'un homme qui sort et qui ne va pas dans le corps de la femme, ce sont des semences qui vont en exil et qu'il faut récupérer de l'exil. D'accord? Il y a une kavana, Chayil Banav Yaki'enu. Il a absorbé de la force et il doit le vomir. Qui a absorbé de la force? Le monde négatif a absorbé les semences d'un homme qui a gaspillé sa semence gratuitement. Et donc, il faut qu'il le vomisse maintenant, qu'il me le rende. Chayil, Chet, Balar, Bet, Vayakien, Vav. Donc, ce mot-là, Habbu, comme en arabe, Habbo, l'amour, c'est la cabana pour ramener les étincelles gaspillées chez les autres. D'accord? C'est un grand, grand secret. C'est une cabana que l'homme doit penser pour récupérer toutes ces forces qu'il a gaspillées en fait un petit peu partout dans le monde. Et ça fait beaucoup, beaucoup de soucis pendant la vie parce que c'est comme des enfants qui sont là, qui demandent en fait à manger. Et donc, comment est-ce que tu les nourris? Par encore une semence gratuite, grâce de Shalom. Donc, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Donc, il faut couper quelque part en faisant ce retour-là. Et donc, tout ce qu'il a fait, c'est ça. Mitikoun Aklali, il fait une partie de ce tikoun-là.
Tu n'as pas répondu aux 400 ans d'exil.
400 ans d'exil, ce n'est pas 400 ans. Ça dépend à partir de quand tu commences à compter. D'accord? Alors, si c'est à Kedatitsa, ça c'est 400. Si c'est l'entrée, c'est 210. Si c'est l'esclavage réellement, c'est 130. Donc, en réalité, ça dépend, mais ce n'est pas très important maintenant. Il y a une différence entre l'exil et après l'esclavage. L'esclavage va aider, en fait, à faire en sorte que les éléments éparpillés reviennent à leur source. D'accord? Vayavidu Mitzray et Bnei Israël, Bechomet, Belevenim, Bechol Avoda Basadé. On va le ramener dans la Haggadah de Pessah. Ça veut dire qu'ils nous ont fait travailler. Chomer, les Levenim et Avoda Basadé, ce sont trois qualificatifs de la Torah pour nous dire que ce sont en réalité des éléments de l'asservissement en Égypte qui a récupéré ces étincelles pour les sauver. Donc elles se sont habillées dans les enfants d'Israël de cette époque-là. D'accord? Et pas seulement de cette période-là, parce que la génération du déluge, rappelez-vous, eux aussi, il y a marqué car les viandes, on ne les appelle même plus les êtres, les viandes gaspillaient leurs semences par terre. C'est-à-dire que les hommes ne donnaient pas leurs semences aux femmes. Pourquoi? Pour ne pas avoir d'avenir. Mais pourquoi ne pas avoir d'avenir? Pour ne pas avoir d'enfants. Et eux, ils se sont dit que quoi? Qu'ils étaient déjà arrivés au Gan Eden. Et comme ils sont déjà arrivés au Gan Eden, on ne va pas se prendre la tête avec des enfants. Donc, moralité, eux, ils pensaient qu'ils étaient dans un temps messianique, les gens de Sodome et Gomorrhe. Donc, si je suis dans un temps messianique, je refuse de boire le mal. Donc, il n'y a plus de mal. Donc, aucun pauvre ne peut rentrer dans ma ville parce qu'il n'y a plus de pauvre. Si tu es pauvre, ce n'est pas normal. Donc, tu sors. Moi, je veux vivre le Messie. Comprenez? Pour avoir quand même des plaisirs, alors on va avoir des rapports homosexuels, homme-homme, femme-femme. Donc, il n'y a pas d'avenir. Et en même temps, on kiffe notre vie et on est là. Et tout ce qui est différent à l'extérieur, on le met à nos mesures. C'est ça l'expression que si quelqu'un découvre, on le tirait. Si quelqu'un était long, on le coupait. Des trucs de malade. Mais en fait, c'est des expressions de tout mettre à ta mesure à toi. Et étant donné que ce n'était pas du tout le temps messianique, mais que c'était juste une bulle apparemment messianique, c'était un leurre et une embrouille, eh bien, eux aussi, ils ont jeté toutes leurs semences. Ça fait partie aussi des récupérations chez les enfants d'Israël en Égypte. Donc, en Égypte, en réalité, vous avez un groupe d'individus qui est à peu près 4 millions de personnes, ceux qui sont sortis, hein, multipliés par 5 pour avoir la totalité. Donc, il y avait 20 millions à peu près, qui étaient en réalité que des êtres portant des éléments et nitsotsot, des étincelles du premier homme. Donc, c'est des néchamot énormes. Mais dans des kélims, dans des ustensiles trop petits. Quand il y a une trop grande lumière dans un ustensile petit, paf, ça explose. D'accord? Donc, il faut renforcer l'ustensile de réception. Donc, l'asservissement en Égypte a aidé à ça. Et aujourd'hui, tous les soucis que nous passons tous, individuellement ou au niveau collectif, c'est pour renforcer notre clé, pour contenir la lumière messianique qui est en train de descendre. Donc, pour nous, c'est des. T'as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu te punit, t'as l'impression qu'il veut te faire du mal. Mais en réalité, il est en train de renforcer ta capacité à contenir cette grande lumière. Sinon, tu ne vas pas être capable de recevoir le film. Ça va être trop fort.
Nettoyage.
C'est un nettoyage. Et donc, en même temps que ça se te nettoie, tu augmentes de puissance, je ne sais pas si c'est dit en français, de contention,
Contenance.
de contenance, de capacité à contenir. OK?
Quand on a des... Ça a des rapports avec sa, avec son épouse, mais que son épouse ne peut plus donner la vie.
Okay. Ça n'a aucun sens. C'est très bien. Tant que c'est à l'intérieur du corps. D'accord? C'est pour ça qu'il faut. Excusez-moi de rentrer dans certains détails. C'est pour ça qu'il faut rester un petit peu après pour ne pas se retirer tout de suite. D'accord? Pour ne pas que, qu'il y ait le moins possible de pertes à l'extérieur. Ok?
La Teva, elle veut qu'il y ait des pertes.
Le Teva. La Teva, c'est un mot. Donc, le Teva, il te pousse à avoir des pertes, mais en réalité, tu veux au maximum arriver. D'accord? Là aussi, il y a des nuances, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a un Zera qui est métamé, il y a un autre Zera qui n'est pas métamé. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Le Teva, c'est la nature. En hébreu, c'est masculin. D'accord? Ha-Teva. Et quand il a dit la Teva, il a dit la boîte en fait, parce qu'il a même pas, il n'a pas prononcé, il n'a pas prononcé le tête ni le haïn. D'accord? Donc si quelqu'un vient et me dit je fais la Teva, on lui dit oui, tiens, une boîte, oui, Teva dehors, ouais, c'est une Teva. Mais s'il me dit je fais la Teva, kazer mais kazer, c'est autre chose. Donc prononcer, n'ayez pas honte. En fait, le problème des Français, c'est qu'ils ont honte de prononcer les lettres en hébreu. N'ayez pas peur. Okay? Aniba. Même si c'est une fille, elle dit Aniba. Non, Aniloba. Aniba A. D'accord? Je reviens. Donc, Ishrit Ubne Adam et Tzaram à l'Aretz. Tout ce que je viens de vous dire ici, entre parenthèses, c'est dans la Gemara de Eruvin, à la page 18. Donc, vous pouvez la retenir facilement. Eruvin, c'est le mélange. 18, c'est la vie. Donc, c'est le mélange de la vie. Maintenant, quand tu te demandes où est-ce que la Gemara parle de faire de semences, tu sais que c'est un mélange de. Donc, Eruvin 18. Zohar Bereshit, c'est des systèmes mémotechniques, dont le Zohar aussi de Bereshit, 55. Ve'u soda amu, et c'est ça le secret qui est dit dans la Torah, Vayar Hashem Yudke Bavke, qui rabarat ha'adam ba'aretz. Et Dieu vit, il a vu, que le mal de l'homme était trop important sur la terre. Pourquoi? Parce que les gouttes de semence, nikra ra'a, on l'appelle le mal. Mishemotzi Keri est celui qui fait sortir cette semence gratuitement, Nikrara, il est appelé lui-même le mal. Kamevoar Bazoar Akadosh, donc ça c'est le Zohar. Tout ceci pour vous dire qu'en réalité, tout ce qu'on connaît de la sortie d'Égypte, selon la Kabbalah, c'est une autre histoire. Alors on est allé récupérer des étincelles de vie, de semences qui ont été gaspillées, pour reformer le peuple d'Israël avec ces semences-là qui sont énormes en lumière. Pourquoi elles sont énormes? Non seulement parce qu'elles viennent de Adam Arishon, mais parce qu'il n'y avait pas de femmes. Donc, lorsque les hommes ont sorti cette semence, ce n'était qu'au niveau de leur pensée la plus élevée. Vous avez compris? Paradoxalement. Exactement. Exactement. C'était pur de chez pur, mais le plus mal possible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de raconter. Exactement. Et donc, comme ça vient d'un très haut niveau de la pensée, c'est en fait toute la pensée qui doit être corrigée. Donc, avant de sortir physiquement d'Égypte, il faut sortir dans la pensée de cet exil d'Égypte. Et ceux qui sortent, qui pensent sortir que physiquement d'Égypte et qui ne sortent pas au niveau de la pensée, ils ont un petit peu raté leur Pessah.
Et donc, notre origine, c'est le rat.
C'est le
rat.
Exactement.
On provient du rat.
Non, du rat corrigé.
Non, du rat sojatsu.
Exactement.
Et donc, notre correction, c'est de qu'on soit plus à l'écoute, à soi de la vie.
Exactement. Donc, il faut que tu aimes ce mal pour le corriger. Comment on dit aime ce mal pour le corriger? Pas tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton mal. Donc, aime ton mal. Ou détestez votre mal. La Torah, elle te dit qu'il faut l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas le guérir. D'accord? Une autre clé. Dans la Haggadah de Pessah, en fait, on se prépare tous à manger, à consommer, à intérioriser qu'une seule chose. Quoi, d'après vous? Le maror. Le maror, c'est la clé de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire, manger le maror? Alors, avant de manger le maror, on te donne un mini-maror. Ça s'appelle le karpas. C'est Zarma pour t'habituer un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est le vrai maror?
Oh.
Le Maroc, c'est valeur numérique, la mort. Mavet. Maroc égale Mavet. Et alors? C'est le mal qui t'arrive dans la vie. J'explique. Est-ce que tu sais manger le mal qui t'arrive? Est-ce que tu sais recevoir le mal qui t'arrive? Est-ce que quand le mal arrive, t'es foutu? Ou bien est-ce que tu sais être d'abord très calme et savoir que ça fait partie d'un processus? Toute la nuit de Pessah, c'est apprendre à manger le mal qui arrive. Ben justement, quand tu manges le maror, on te dit que si tu le mâches tranquillement, il devient doux. C'est-à-dire que tu transformes la mort en vie. Et donc, ça, c'est le maror, hein. Ça, c'est le leister. Mais la plupart des hommes, ils n'ont que des petits karpas. C'est-à-dire, c'est des petits mots, M-A-U-X. Donc, chacun, il vient te voir avec son petit mal. Ouais, j'en ai marre. Il dit, mais qu'est-ce que tu parles, toi? Tu sais, c'est un karpas. Attends, tu vas voir le maror, leister. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'arriver au maror. Mais il faut comprendre que ce qui t'arrive dans la vie, c'est tout organisé, orchestré, et c'est pour te corriger, c'est pour ton bien. Pas facile, hein? Parce qu'on tombe tous avant de commencer à se dire, écoute, ça y est, quoi, stop. J'ai assez pleuré, j'ai assez râlé, j'ai assez truc, Akadosh Baruch Hu, si c'est ça, si ça doit être ça pour me, pour me nettoyer, il n'y a pas de souci.
Non.
Maror, c'est les herbes. Qu'est-ce que c'est Korban Pessah?
Ça fait comme
autre chose. Yos Corban Fagiga. N'essaye pas de m'entourer.
Elle s'est fait longtemps, c'est presque un an.
La classe, elle a redoublé.
Je note, hein, je note.
Oh, non, mais...
question, qu'en est-il ? Il y a pas un ensemble des bois qui sont sortis de là.
Oui, oui.
C'est les arbres qui sont restés.
C'est des âmes qui ont été le elles ont fait passer en fait leur énergie qui n'a pas été corrigée à ceux qui sont sortis. C'est-à-dire que en fait il y a une interférence quand par exemple deux personnes font un même travail. Un ne veut pas le faire et l'autre il veut le faire. La partie de celui qui ne veut pas le faire, la bonne partie elle passe chez le bon. Et la mauvaise partie du bon, c'est le mauvais.
Quelque part, il y a plus que 20% qui sont partis.
Non, il y a 20% qui sont partis, mais les 20% qui sont sortis, en fait, ils étaient les 100% maintenant. Mais comme un bébé, il n'a plus d'éléments étrangers en lui. Alors, quand une femme, elle accouche, le bébé, il va sortir. D'accord ? Les médecins, ils ne s'occupent même pas du bébé. Ils vont voir dans le ventre de la mère s'il reste ces éléments. D'accord ? Ça s'appelle les Palestiniens, les placentas. C'est les mêmes. Et s'il reste des éléments, s'il manque des éléments chez le placenta, ça veut dire que Chas Bechalom, il est ou dans le ventre de ma mère, de la mère, ou bien dans le bébé. Donc, très dangereux. Donc, moralité, le bébé doit sortir pur et le mâle doit être pur. Chacun, il a pris tout son truc. C'est ce qu'on appelle un berrou, il y a un tri. D'accord ? Ceux qui n'ont pas fait le travail, leur mal va chez les bons qui vont sortir. Et le mal des bons va aller chez les mauvais qui sont restés. Donc, les uns sont restés 100% mauvais et les autres sont devenus 100% bons. D'accord ?
Pas de Révrav qui a reçu les chameaux.
Ça, c'est encore après. Ça, c'est le Révrav, c'est une deuxième couche. C'est-à-dire, tout doucement. Pour l'instant, ils sortent. Chacun avec ses intérêts. Même dans la Géoula, hein, qu'on est en train de vivre maintenant, chacun a ses propres intérêts pour sortir. Les uns sont sortis parce que Moshe, il était très charismatique. Mais ils sont fichés complètement du processus. Ils ont vu un mec, waouh ! Les femmes étaient toutes amoureuses de lui. C'est marqué comme ça. Et tous les hommes de ces femmes-là avaient peur qu'elle avait trompé avec Moshe Rabbeinu. C'est marqué comme ça, hein? Très grave. Hein? Et donc, les hommes étaient jaloux de Moshe. En plus, Moshe, il avait des gros mollets. Regardez jusqu'où la Gemara va. Hein? Et donc, les gens, ils disaient, ils mangent sur notre compte. Donc, ils nous bouffent la nourriture. Ça te choque, hein? On regarde. Hein? C'est curieux, hein? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu représentes en fait un élément dominant dans un groupe social, tu as une jalousie, tu as des machins, tu es laïsta, c'est le feu. Pas évident. Et donc, Moshe, il doit avoir une protection encore plus. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, quand il voit ça, toutes ces mauvaises énergies, qu'est-ce qu'il dit ? Emche et Adam asher barati. C'est bizarre. On n'est déjà plus chez le premier homme. On est déjà dans la tour, dans le Sodome et Gomorre, Babel. Et après, et Dieu dit, dans son expression, je vais effacer l'homme que j'ai créé. Il est déjà mort. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on a appelé l'homme ? Ha Adam. Et non pas Adam. Rappelez-vous que Adam, c'est Israël. Ha Adam, c'est les nations du monde et tout le système mélangé, même dans Israël. Et je vais le détruire de la vie de tout ce monde que je viens de créer. Et là, Afaré, il y a une forme d'échappatoire sous la forme de Noir. D'accord ? Donc, Noir, agréable, noir, il va en fait ramener un certain équilibre dans le monde, et en réalité, finalement, aujourd'hui, nous sommes les fils plus de Noé, puisque tout le monde est déjà mort dans le déluge. Il restait que Shem, Cam et Yefet. Nous, on vient de Shem. Donc, on est les Shemites ou les Sémites. Donc, ceux qui sont contre Shem, ce sont des antisémites. C'est tout. Cam, c'est tous les pays noirs africains. Yefet, ce sont tous les occidentaux et plus encore l'Extrême-Orient. Achar Kachit Galgelou Bedora Panaga. Donc, toutes ces Neshamot, là, je vous ai fait un truc en Égypte, mais on revient en arrière, elles sont revenues dans la génération de la Palaga. Palaga, c'est comme les Mifnagot. Chacun prend son truc. Ve'alem pti, il est écrit sur eux, concernant ces gens-là, l'irot et ta'ir ve'et amigdal asher banu vne à Adam, encore une fois. Dieu descend, entre guillemets, il descend, pour voir la tour et la ville que ces hommes, les fils de Ha-Adam, ont construit. Qu'est-ce que c'est que cette construction-là de la tour de Babel? C'est quoi? Pourquoi ils construisent cette tour?
C'est un obstacle, non? Pour
rester chez lui. Les Rahamim nous disent dans la Gemara, ce sont des piliers. C'est le premier des piliers. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire d'offres parce qu'ils les ont détruits avant. Pour soutenir le ciel. Pour ne pas que le ciel nous tombe sur la tête. C'est de là que vient l'expression. Il se notre tête. D'accord. Et donc, c'était un pilier pour maintenir le ciel dans son ciel. Autrement dit, tu nous as fatigués à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas envie que tes valeurs descendent sur terre. Laisse-nous vivre tranquillement. Moi, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie d'avoir un bon Dieu qui vienne me dire quoi faire. Et en plus de ça, si un jour il m'envoie un messager, un porte-parole de toi, donc Israël, on va tout faire pour le détruire. Vous comprenez maintenant pourquoi on nous en veut autant? Parce que c'est nous, en fait, les porteurs de ce message. Donc on gêne tout le monde. Les gens nous disent, mais arrêtez, vous êtes trop... Le niveau est trop haut. Vous ne laissez pas vivre. On n'a pas envie de vivre à ce niveau-là. Vous êtes en train de représenter le divin, mais nous, on n'en a rien à faire. Je veux vivre ma vie tranquillement. Laisse-moi tranquille. Tu m'amènes des valeurs qui... Ça y est, quoi. Tu me pousses à grandir alors que je n'ai pas envie de grandir. C'est comme quand j'étais petit. J'allais aux dans les mariages. Il y avait des musiciens à l'époque. Moi-même, je jouais mieux, quoi. Et à un moment donné, il est arrivé à frapper avec des cuivres, des machins, des trucs. Tous les musiciens, ils ont dit, hey, quoi, c'est trop fort. On est foutus. Tu nous as amenés, tu nous as monté le niveau. Maintenant, tout le monde doit faire des efforts. Alors, au début, c'était difficile, mais ça a poussé tout le monde à s'améliorer. Et c'est ça, en réalité, qui serait fait dans le monde. Alors, je reviens. Achar kachit galgelou bedora plaga, donc, migdal. Ou Mefaresh HaZohar, et le Zohar nous explique qu'est-ce que c'est que ces hommes qui ont fait cette tour. Benoï de Adam Kadmae, c'est de l'araméen, hein, les fils du premier homme, chez Ayubanav Mamash, parce qu'ils étaient considérés comme ses fils réellement. Rak Shayu Mitzada Keri Shel Hazafar, Beli Hanekeva. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Seulement, ils étaient que des étincelles de semences masculine sans le côté féminin. ולכן הם בעצמם חטאו גם כן והוצרכו להתגלגל בדור ההוא ולתקן זאת כי כולם היו נשמות קדושות בעצומות. Donc ils étaient obligés de revenir pour corriger tout ce système-là. Mais sache que dans le fond, c'était des neshamot extrêmement grandes. Où est-ce que c'est les neshamot aujourd'hui? Regardez-nous. C'est nous. Ça y est, c'est nous. C'est la dernière fois qu'on vous vient tous. Au niveau global, on est tous réunis. Ça veut dire que nous sommes portés aujourd'hui une folie de Neshamot. Vous ne pouvez même pas vous imaginer de combien on est fabriqué. C'est pour ça qu'on est tellement avec des sritot dans la tête. C'est-à-dire des rayures. On est complètement griffé, quoi. C'est une expression en hébreu, ça veut dire on est un peu stable, tout le monde. On est tous des gays. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a chaque élément qui vient t'embêter d'un autre Gilgul. Donc l'autre, il vient, il te pique comme ça. L'autre, il avait un problème dans l'autre truc, il te pique comme ça. Donc en réalité, imagine-toi, quand toi, il y a, je sais pas moi, 200 personnes qui viennent t'embêter avec des mémoires et tout le monde est rassemblé maintenant dans les personnes que nous sommes. On est porteur, c'est incroyable. Chez les Hassidim, pour montrer ça, pour faire un acte symbolique, quand vous allez dans un mariage, je ne sais pas si vous étiez un jour dans un mariage Hassidi, le Khatan, il a une vingtaine de vêtements sur lui. C'est-à-dire, on lui met les vêtements de son père, de son grand-père, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-arrière-grand-père, même s'ils avaient le truc de la Moshe Rabbeinu, il est comme ça, avec 200 couches, et on lui dit, voilà, tu es responsable de tout le monde. Imagine-toi, tout ce qu'on psychanalyse, on essaie de te nettoyer. Bien. Lui, il va dormir cette nuit, il ne sait même plus qui il est. Ce n'est pas deux en un, ni trois en un, c'est 2000 en un.
C'est ça, les couches des talites.
C'est aussi la même chose. Il y en a qui mettent des centaines de talitotes sur eux. J'ai été voir un Mekoubal, il avait 101 talites sur lui. Alors, les mecs, ils ne pouvaient plus bouger d'abord. Donc, il était comme ça. On voyait que sa tête. Une boule. C'est une anaga, c'est-à-dire je suis responsable, je n'oublie pas ce que je suis venu faire. Exactement. Je suis porteur d'un message qui est... D'accord? Oui. Et la shiachizat achitzonim aita ba'em v'em kilkelu. Donc, ils avaient toute la mémoire des anciens, ils ont continué à faire le même effort. Sous-entendu, quand tu reviens pour guérir une certaine maladie que tu avais avant, tu as toujours le même test à passer. Et quand toute cette maladie les a quittés, ils étaient imperméables en fait. Enfin, Akadosh Baruch Hu pouvait les sortir d'Égypte. Donc, l'attente de la sortie d'Égypte, c'était pour nettoyer. Et même, avec ça, on est sorti avant le nettoyage complet. Donc, il fallait rembourser ce qui restait du nettoyage dans les autres exils, dont le nôtre. Moshe, qui était le Mashiach de l'époque, a dit à Kadosh Baruch Hu, je préfère souffrir encore en Égypte, encore 50 ans, parce qu'on est sorti à 210, lui, il voulait 260 pour le nom de Dieu. Il t'a dit à Kadosh Baruch Hu, fais-nous encore 50 ans, comme ça après il n'y a plus d'exil, on rentre en Israël, c'est fini. À Kadosh Baruch Hu, il a dit non, et c'est ce que vous dites dans la Haggadah, si on avait attendu un instant de plus, vous auriez été avalé par le mal, c'était fini. Donc il y avait un degré de non-retour, un point de non-retour qu'il ne fallait pas dépasser. Et c'est à Kadosh Baruch Hu qui connaît ce point de non-retour. Vioulotsiano Mimitsai. On aurait été encore tous asservis à ce système. Tout ça, c'est du kéri de Adam Arishon.
Le fait que Adam Arishon n'était pas volontaire. Mais c'était volontaire. Non.
Il est sorti de lui. Il a marqué Adam Arishon, Raya, mon cher Berorot. On va faire dans les détails, il y a des jeunes.
Après.
D'accord, c'était volontaire. Pour lui, c'était un nettoyage. Veda qui kol haneshamot baot michasabim bekurot bedaat. Donc, tu voulais un cours sur le truc de la semence gratuite. Voilà. Là, on est en plein Pessah. Hein? Ouais, c'est il y a deux ans, mais en fait, c'est ça. D'accord. Donc, toutes ces neshamot viennent, tous les neshamot que nous avons tous, ça vient d'un accouplement de chesed de gvura. C'est-à-dire qu'on est, en fait, droite-gauche. Qui sham na'asa zibou, et de quel chesed et gvura, là où ils sont réunis, c'est-à-dire dans le da'at, ici. Si je devais le placer dans le corps humain, c'est là. D'accord? Là où on te branche. Bientôt, on va avoir des trous ici. On va rentrer à une fiche, exactement. Matrix. On va nous rentrer une fiche, et on va apprendre tout d'un coup. Eh bien, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle Da'at. D'accord? Qui a compris ce secret? Qui a compris ce secret? À part le Néo? Paro. Paro, c'est les mêmes lettres. Oh, il est là. Il a compris ce secret. Paro était un très, très grand magicien. Enfin, grand dans sa magie. Petit de taille. Hein. Le Harizal, il dit qu'il faisait 50 cm. Et une bouteille de coca, quoi.
À côté de Moshe.
À Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres de haut. Et le pharaon, il faisait 50 cm. C'est un jeune. C'est des... Ma femme, l'Égyptien. Sachez que ça existe. Hein. Que Dieu préserve. Et donc, c'est là-bas que se font les zibougim au niveau du Da'at, entre la droite, le cerveau droit, et le cerveau gauche. Eva, c'est là. C'est ni là, ni là. Là, ils sont séparés. Là, ils sont réunis. D'accord? Et c'est de là-bas que sort la goutte de semence du cerveau du père. Cette goutte qui va se transformer en liquide et qui après va rentrer dans le ventre de la maman et qui va devenir un bébé. D'accord? Un fœtus, c'est un bébé. Ma.
Voilà.
Exactement. Si tu as les bonnes kavanot, tu as un autre bébé d'un autre niveau qui sort. C'est ce que dit le Harizal. Si les gens savaient ça, cette neshama, elle attend au pied de ton lit au moment de la fabrication de ce futur bébé. Et donc, étant donné qu'on est des déviances, des machins, chacun a des idées, des trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails, alors tu as des enfants qui sortent avec ce que tu as fabriqué quelque part. On décompte l'importance qu'on a et on n'étudie pas ça.
Tu devrais enseigner ça aux enfants.
C'est pour ça que le Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il faut enseigner le Zohar à partir de 6 ans. Magam de Roche le Moshe. Et Moshe, qui c'est lui? S'il est porteur de quelle énergie? Si vous deviez lui donner une sphira. Lui aussi, c'est simple, c'est le Da'at. Et donc, Moshe, c'est le Da'at. Et Paro, la même chose, mais dans le côté négatif. Donc, ils sont équivalents. Aya kulo mikomata Da'at ke Moshe Atzmo. Regardez entre parenthèses, c'est le Harizal qui nous donne ça dans Etzraim, Shahar et Arat Amochim, Perekbet. Et la Shenim Shechou, la Klipot, donc tous ces éléments, au lieu d'aboutir vers le bien, ils ont donné naissance à des clipotes. Ils ont en fait nourri le mal. C'est-à-dire que pour les forces du mal, il n'y a pas plus grand repas que ces étincelles dont nous parlons depuis le début du Shiur. Vous comprenez ce qu'on a à corriger lundi soir? C'est où les enfants d'Israël, machin, Pessah, tu vas avec ton baluchon, toi tu as la pêche. Ça change tout. Hein. Bon, c'est pas la peine d'aller raconter ça à tout le monde. Là, on étudie la Kabbalah. Faites des kavanotes. Pas la peine d'alourdir votre table, ni les gens qui sont là-bas. Il y a des jeunes, il y a de tout. Soyez légers, soyez light. C'est pas tous des familles des chachamim. C'est pas tous des élèves de yeshiva. Ne les saoulez pas. Faites les choses rapidement, bien, mais rapide. D'accord? C'est dans le cœur et dans la pensée. D'accord? C'est la pensée qui devient cœur. Moach lev vekaved. Après, ça descend dans le foie. Vekol galut mitzray. Voilà, maintenant je reviens. Haïta netzorech tikun kol aneshamot alalu. C'était en fait pour réparer toutes ces âmes. Velachen gam sham yanka mitzray minadat shel Israël. Et c'est de ça que t'était l'Égypte. En fait, elle s'est dit, waouh, j'ai gagné le gros lot. J'ai 8 millions de personnes qui étaient les enfants d'Israël, entre guillemets, et je prends la quintessence de ce qu'il y a à me nourrir dans ce monde. Il n'y a pas plus haut. Imaginez-vous le kiff des Égyptiens. En plus de ça, ils avaient mis au fond du Nil la batterie, la plus grosse, Yosef. Yosef, c'est quoi? C'est la même chose. La femme de Potiphar, maintenant, vous comprenez pourquoi elle a essayé de le séduire juste à cet endroit-là. Est-ce que des gouttes de semence sont sorties de Yosef? Oui, de ses 10 doigts. Il y a marqué la tentation était tellement grande que ce n'est pas sorti de là où vous pensez, c'est sorti du bout de ses doigts. Tellement c'était puissant. Et donc, il fallait, les Égyptiens, pour eux, c'était un régal. Donc, ils se nourrissaient au niveau intérieur de toute cette force-là et des autres. Et tout ça, ça vient du Dard. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Zohar, il dit que qui était en exil en Égypte? Le Dard. Hadat Ayab Ben Galut Mitzrayim. Comme ça dit le Zohar. Ça veut dire que c'est ça l'exil. Il faut libérer le Dard. Ubifrat Paro Melech Mitzrayim Shaya Besoda Ore. Quel est le mot français qui se rapproche de Paro? La peur. Paro, c'est la peur. Fear. Paura. Paura. C'est tout dans les langages. C'est Paro. Paro, c'est en réalité la peur de sortir de cette prison. Donc, tu préfères même servir ce bon Dieu qui n'est pas le tien en lui donnant de temps en temps à manger. Et lui, de quel degré il mange? Du côté arrière. C'est-à-dire, il y a la face et le dos. La face, c'est ce nom-là. Le dos, c'est le nom de Elohim. D'accord? Je ne vais pas entrer maintenant dans les détails, mais si vous faites les combinaisons de Elohim, il y a une certaine partie qui, en réalité, tous les tséroufim de Elohim, donc c'est 5, factoriel 5, 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Donc 5 fois 4, 20, 20 fois 3, 60, 60 fois 2, 120, 120 fois 1, 120. Ça veut dire que dans le nom de Elohim, il y a 120 combinaisons. Et les Égyptiens mangeaient 48 d'entre elles. Ça veut dire que quand Elohim, du côté de la sainteté, parce que c'est quand même Elohim, on le dit, Baruch Ata Hashem Eloheinu. Mais quand tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu arrives à sortir en fait des frontières de Elohim, de la sainteté, et tu es dans Elohim Acherim. Et c'est ce que Dieu dit, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai. Tu n'auras pas d'autres Elohim que ceux qui appartiennent à la Kedusha. Et qu'est-ce que c'est ces autres Elohim? Eh bien, c'est ce que l'Égypte prenait justement. Si tu, Chas V'Shalom, rentres dans ce système, tu donnes à manger au mal, sans arrêt, sans arrêt. Tu nourris le mal. Et donc, dans le monde réel, maintenant je reviens au micro, eh bien, les enfants d'Israël sont soumis aux Égyptiens, parce qu'ils les nourrissent. Donc, imaginez-vous, le pharaon, il n'a aucun intérêt à laisser partir sa nourriture. Maintenant, pour limiter le dégât, Iktin Hamaatzil Etza. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait pendant un exil aussi puissant, aussi mauvais pour eux, et bon pour les ennemis? Eh bien, il fait rétrécir le visage du système. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Ça veut dire, pour ne pas les laisser trop manger. Donc, Israël ne reçoit plus rien, presque. Mais en même temps, les autres n'ont pas de quoi manger. Donc, c'est un système de protection dans l'exil. C'est pour ça que je vous dis sans arrêt qu'en exil, le peuple d'Israël ne peut pas avoir une lumière. Parce que toute lumière qui arriverait en exil, elle serait bouffée immédiatement par le prince qui habite dans ce pays. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, le flux d'un juif religieux pratiquant à Paris, il va chez Macron, mais pas celui d'en bas, celui d'en haut. Et celui d'en bas, lui aussi, prend des impôts. C'est la même chose. C'est-à-dire, ce que tu payes en impôts en bas, c'est ce que tu devais payer en haut.
C'est tellement complexe qu'aujourd'hui, on fait même ça ici, mais
exactement.
L'intérieur de...
Exactement. Et c'est ça le danger maintenant du dernier degrés. On en est là. Et donc, il faut faire très attention. À mon sens, la Géoula, la vraie, ça va être une brisure de tous les systèmes.
D'accord?
Ouais.
Obligé.
Tu passes par lui, c'est le maître de la maison. Donc, même en priant Dieu, tu es obligé de passer par le mec qui a la droite. Donc, c'est un prince céleste. Il se dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est une prière. Il dit, ah bon, d'accord, combien ça fait? Bon, je prends 80%. Tu veux passer 20% à ton bon Dieu? Ici, on ne connaît pas d'ailleurs. Donc, j'envoie les 20% restants en Israël. Donc, la prière est bien jusqu'en Israël. Sur la route, il y a plein de forces qui viennent. Moi, je prends encore 1%, 2%, etc. Donc, ça, il arrive à 0,00 avec 10 chiffres PMJ1 à la fin. En Israël, il monte. Quand il monte ici, il dit, c'est quoi ce truc-là? Hop, fini. Ça va partir de l'autre côté avec des vols en route. Donc, vous comprenez pourquoi il y a marqué qu'en Égypte, Moshe ne pouvait même pas prier. À chaque fois que Moshe priait, c'est marqué dans le texte, mais personne ne le lit. Il faisait son alia. Moshe Rabbeinu, il faisait son alia, il priait Dieu et il repartait en Égypte. Vous saviez ça? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas sortir un instant d'Israël pour prier. On ne peut pas prier à l'extérieur, c'est ce que dit Moshe. Donc à chaque fois, Moshe allait en Israël, dans les frontières d'Israël, il priait là-bas et après il revenait en Égypte. Pour ne pas prier en Égypte, parce que prier en Égypte, c'est donner toute sa force à celui qui est là-bas. Ken, il y avait une question? Ceux qui sont enterrés, ils ont une grande souffrance en dehors d'Israël. Et à la résurrection des morts, même si on ne veut pas rentrer dans tous les détails, ça s'appelle le Mephilot Afa. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, comme si de creuser la terre pour arriver à la terre d'Israël. Donc il va falloir amener des bactéries de la terre d'Israël pour qu'ils fassent une connexion directe pour les aider. Hein? C'est comme une alia, mais mort. Mais sous la terre. Là, il stop. 10 000 km, 5 000 km, ça dépend de la vitesse. Sous la terre. Ça prend 4 heures en avion, ça prend, je ne sais pas quoi, 2000 ans. Sous la terre et encore. Donc, le Zohar ne dit pas qu'il faille amener les morts en Israël, parce qu'il préfère, il dit, les vivants. Le Zohar, il dit, ne m'amenez pas des morts. Vous allez les rendre ma terre impure. Ils ne sont pas venus lorsqu'ils étaient vivants, tant pis pour eux. Mais, une fois qu'ils sont morts, si tu les fais venir, tu les sauves, ces méchants. Là, ils viennent te remercier. C'est-à-dire, donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font aujourd'hui venir les corps. D'après le Zohar, il est préférable, a priori, de ne pas le faire, c'est-à-dire de venir vivant, mais une fois qu'ils sont morts, alors... Bon, alors, il vaut mieux les faire venir si tu peux. Et bon, il y a aussi là-dedans à boire et à manger, je ne veux pas rentrer dans tout. Moi, je ne sais rien. Je ne fais que répéter ce que... Je ne sais ni lire, ni écrire. Je ne sais qu'appeler. Je n'ai même pas 3 ans. D'accord? Alors, tout ceci, comment est-ce que tu rends petit le partouf? Eh bien, en Égypte, et ça, c'est la Kabbalah, en fait. Vous comprenez que je suis en train de vous parler en message codé, hein. Akadosh Baruch Hu rétrécit le système et il le fait rentrer dans le ventre d'une maman, comme si c'était un fœtus qui va renaître. D'accord? Il refait tout le système à l'envers. Et la naissance, ça va être la sortie d'Égypte. Et donc, tout ce qui est à l'intérieur maintenant, ça s'appelle Ibour. Il est en Ibour, il est en, je sais pas, gestation, à l'intérieur de la maman. Et toute cette gestation-là, c'est pour empêcher que les forces, parce que dans le ventre de la maman, le bébé est très protégé. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut protéger son bébé, donc il est à l'intérieur du ventre. Donc, juste avant la Géoula, tu ne vois rien. Ne serait-ce que 10 minutes avant la Géoula, tu ne vois rien. C'est-à-dire qu'au moment où maintenant on va avoir un dévoilement, ça va être comme ça. C'est-à-dire 2 minutes avant, tu étais malheureux comme les, je ne sais pas qui. Et 5 minutes après, tu te dis, bah, attends, ce n'est pas possible, il y a 10 minutes, j'étais. Ça s'appelle Herif Ayn, comme si tu fermais l'œil et tu mourrais. Comme un clin d'œil, un clignement de l'œil. Et donc, pourquoi? Parce que le système, il est caché, sous-jacent, et il n'est pas révélé jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, c'est la grande différence entre le bien et le mal. Le mal, il est visible. Le bien, il est caché. Et c'est la même intensité. C'est-à-dire, si tu vois X, okay, mal, il y a la même X, bien. Seulement toi, tu vois le mal parce qu'il est dévoilé, le bien, il est caché. Donc, sache que autant de souffrance et de mal que tu ressens maintenant, il y a autant de bien caché. C'est très rassurant. Et en un instant, il y a tout qui s'inverse. Il y a tout qui monte. Salut! 57. Ouais, ils ne savent pas que j'ai un cours quand même. On a encore 3 minutes, Léopold?
Même 8 minutes, j'ai dit.
Oui?
On peut aller jusqu'à 1h05.
Ok. Ça vous intéresse? Non, non, sérieux, parce que c'est. Rendez compte qu'on est loin, loin, loin du Seder de Pessah avec la Haggadah. Hein? Et vous rendez compte de ce qui se passe? Maintenant, tu peux arriver au Seder de Pessah, tu dis, mais attention, c'est ahurissant. C'est tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était quoi alors? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et le lendemain matin, tu fais concours. À quelle heure tu as fini? C'est le grand sport. Quelle heure vous avez fini de manger l'asticot? Moi, minuit, toi, minuit. Oh, tiens, c'est ça ton truc. Et depuis quand tu as commencé le nettoyage? Et qu'est-ce que tu as fait comme boulet, machin? Bon, on a la hada de faire. Alors, tout ça, tu es tellement loin du système. Ça fait partie du système. Mais donc, le cerveau de ceux qui font que le côté superficiel, c'est dommage parce qu'ils ne comprennent pas que même les poulettes, elles font partie du degré. Tout, le vin, les matzot, tout ça fait ça. Vous savez ce que ça veut dire matzot en hébreu? Personne ne le sait. C'est terrible. C'est terrible. Je deviens fou, moi, avec juste un dictionnaire. Les gens ne savent pas ce que veut dire le mot matzah. Vous pensez que c'est de la galette. Qu'est-ce que ça veut dire matzah en hébreu?
Elle
Non, 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 c'est ni sortir. C'est ni parzim, c'est ni je ne sais pas quoi. Matzah veut dire une dispute en hébreu. Matzah ou meriva. Prenez un dictionnaire. Les gens ne savent pas. Ça veut dire que le seder de Pessah, c'est une guerre. Il y a un combat cosmique. Et si tu ne fais pas attention, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu nous protège cette nuit-là, ça s'appelle Leil Shimurim. Parce que tu es tellement soumis à des forces qui veulent pénétrer, mais elles ne peuvent pas parce qu'il y a une gamme. Tu te rends compte de ce qui se passe? Par contre, avant, faites très attention. Dimanche soir. Dimanche soir, c'est la Bdikat Hametz. C'est le moment où il y a toutes les forces du mal qui veulent venir te massacrer la tête. Donc, toi, tu vas marcher avec ton petit machin et ta bougie, la base, ta petite lampe. Et toi, tu vas croire, ben, ça y est, quoi. Toujours, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu, c'est devenu 10 minutes. Tu as caché 10 morceaux, tu les retrouves. Oh, quelle merveille. Dis-moi, tu te fous de qui, là?
Et notre corps qui rentre en fait
C'est terrible. D'ailleurs, pour éviter cette guerre et pour se protéger, il faut mettre un récipient de sel dans le plateau. Parce que le sel protège. Dans le. Non, je suis dans la Dikatramet. Tu te balades avec un morceau de sel pour ne pas que les forces du mal, elles viennent te du gros sel, si c'est possible. Hein? Quoi? Non! Tu le prends avec toi pour que tu te balades. Maintenant, tu vas rechercher les 10 morceaux que tu viens de cacher. Joha. Et en plus de ça, tu as Hein, le pauvre Miskin, il s'est dit, tiens, j'en ai 9, je ne sais même pas il est où le 10e. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est pour ça que tu dois mettre des petits morceaux qui sont moins que de kazaït. Comme ça, même si tu l'oublies, ça considère comme annulé. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, c'est déjà un autre truc, c'est pour le cours de Shabbat. Je recommence. On termine. Il m'a dit jusqu'à 1h05, alors je vole encore 5 minutes. Comment ça s'appelle tout ce système-là maintenant? Bien, ça s'appelle la gorge. Le Garonne. Mais ça, la Garonne, c'est l'Égypte. Alors, maintenant, je vais vous dessiner et on termine avec ça. Dans les sphirotes, la maman, elle se termine dans la gorge de son fils. Vous êtes avec moi? Placez une maman et placez un tout petit garçon devant elle. Sa tête, elle arrive à la partie de la maman, comprenez bien. Donc, ça veut dire que la partie génitale de la mère, elle est à peu près au niveau du cou de son fils. Et ce cou de son fils, c'est l'Égypte. Et donc, la maman, maintenant, elle va devoir aider son fils à ne pas être pris à la gorge. Donc, les boules, c'est ici. Okay. Donc, tu dois faire circuler le flux, sinon, Chas v'Shalom, il est coincé ici. Et tout ça, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Pour un autre épisode, mais vous avez quand même le texte. Dodo Rabat.